Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur Italie Commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 10 décembre 2021 et au sommaire, cette semaine, 5 articles. Commerce, la vertigineuse ascension de la Chine 20 ans après son entrée à l'OMC, à lire sur Les Échos. Les grandes tendances de la relation client 2022, à lire sur e-marketing.fr. Transport maritime, Amazon affrète des cargos privés et fabrique ses propres conteneurs, à lire sur lesiècledigital.fr. Ce que le luxe exploite de l'e-commerce sur le JDN. Et enfin, les données des consommateurs, nouvelle mine d'or de la grande distribution depuis l'avènement de l'e-commerce, à lire sur French Web. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour le compte de tiers, c'est-à-dire pour vous, vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter les clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Contactez-moi. En attendant, bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez, car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Commerce, la vertigineuse ascension de la Chine 20 ans après son entrée à l'OMC. L'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001 consacre son retour dans le système commercial international. 20 années de développement et l'essor spectaculaire ont suivi. La Chine est devenue l'usine du monde alors que se profile une nouvelle bataille pour la suprématie technologique. Tout ça est à lire donc sur leséchos.fr en date du 9 décembre. Vertigineux. Aucun autre terme ne peut convenir aux performances de la Chine 20 ans après son retour dans le système commercial international. Après avoir quitté le GATT en 1950, elle a opéré un retour en fanfare le 11 décembre 2001 en intégrant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Cela a impliqué 15 ans de longues négociations avec les États-Unis et l'Union européenne, inquiets de la montée en puissance du géant asiatique endormi. Les augures semblaient alors favorables en ce début de 21e siècle et les pays occidentaux ont mis du temps à réagir au réveil chinois, premier exportateur mondial. Dans l'histoire économique, jamais aucun pays n'a connu une telle croissance ni un tel développement si peu de temps. En 2001, la valeur ajoutée produite par l'économie chinoise n'était que de 1300 milliards de dollars, bien loin des 10 600 milliards des États-Unis et des 8 900 milliards de l'Europe. 20 ans plus tard, le chiffre a été multiplié par plus de 10 pour atteindre 14 300 milliards contre 21 400 milliards pour les États-Unis. La Chine, deuxième économie mondiale, talonne désormais l'oncle Sam. En 20 ans, la Chine est devenue la première puissance exportatrice mondiale avec 2500 milliards de dollars de marchandises expédiées via ses ports, notamment Shanghai. En 2001, seulement 325 milliards de dollars avaient été exportés. Mais elle a aussi accru ses importations qui ont bondi de 740% sur la même période, à peu plus, de 2000 milliards de dollars. La valeur totale de ces échanges commerciaux ont fusé de 810%, bien plus rapidement que l'ensemble du commerce mondial, 180%. Premier partenaire commercial de nombreux pays, la Chine représente désormais 13% du commerce mondial, en hausse de 4 points par rapport à 2001, après avoir dépassé les États-Unis en 2013. L'usine du monde. Quels que soient les secteurs, hormis les matières premières et les produits agricoles dont il a besoin, l'empire du milieu exporte avant tout des produits manufacturés. La Chine est devenue l'usine du monde. Sur ce plan, elle a gagné son pari. Elle le doit à sa politique favorisant les investissements des entreprises étrangères sur son territoire. D'environ 41 milliards de dollars en 2000, les flux d'investissement direct étrangers, IDE, n'ont cessé de croître pour atteindre près de 150 milliards de dollars en 2020. Le stock d'IDE en 2020 atteignait près de 2000 milliards de dollars contre près de 610 ans auparavant. Mais pour profiter d'une main-d'œuvre bon marché qualifiée, les entreprises étrangères ont été obligées d'y transférer leur technologie. C'est l'une des conditions imposées par Pékin pour ouvrir les portes d'un marché de plus d'un milliard de consommateurs. S'y ajoutent les pratiques économiques et commerciales, peu en rapport avec les standards observés par l'OMC. Les pays occidentaux ont oublié de discipliner la Chine sur ses politiques de subvention à ses industriels et ses soutiens aux entreprises d'État. Capitalisme d'État contre économie de marché. Malgré les nombreuses critiques, la Chine n'a pas véritablement triché avec les règles de l'organisation. Elle a simplement su les utiliser à son profit. Contrairement aux espoirs nés en 2001 d'assister à une convergence de l'économie chinoise vers l'économie de marché, c'est le capitalisme d'État qui l'emporte. La cassure date de la crise financière de 2008. Jeudi dernier, le président chinois Xi Jinping a bien vanté les progrès de son pays en matière de libéralisation des échanges lors d'un discours prononcé à la foire aux importations de Shanghai. « La Chine a pleinement respecté ses engagements d'adhésion », a-t-il déclaré. Le niveau moyen de ses droits de douane a été réduit de 15,3% à 7,4% inférieur à l'engagement d'adhésion de 9,8%. Forte de sa puissance, la Chine tisse sa toile au niveau international. Elle a signé un pacte commercial avec 14 pays d'Asie Pacifique en novembre dernier, développe ses nouvelles routes de la soie, accroît son influence sur le continent africain pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières notamment. Parallèlement, sa puissance militaire ne cesse de progresser et Pékin ne cache guère ses ambitions dans le Pacifique. Aujourd'hui, c'est un choc frontal entre la Chine et les États-Unis auquel la communauté internationale assiste. Si la Chine a gagné la première manche en étant incontournable dans le domaine manufacturier, elle n'est pas assurée de gagner le deuxième défi qui se profile, à savoir la suprématie technologique liée à l'ère numérique. La bataille a déjà commencé avec les États-Unis et l'Union européenne. Les grandes tendances de la relation client 2022 à lire sur e-marketing.fr en date du 8 décembre. Ce qui permet à une tendance de se concrétiser est un dosage subtil de maturité technologique, de convergence avec d'autres démarches et de timing marché. Depuis 2 ans, la question de l'anticipation, revisitée par le besoin de réaction, conduit notre industrie à remettre en cause les situations que nous pensions immuables. Et plutôt que des tendances, ce sont aujourd'hui 4 grandes questions qui se posent aux acteurs de la relation client. 1. La mesure de la satisfaction a-t-elle perdu le nord ? Grand bouleversement dans le microcosme de la relation client, le NPS n'est plus le roi. Le Gartner Group pronostique même sa disparition dans les 5 prochaines années. Si le sujet peut sembler anecdotique à un observateur extérieur, son impact est en réalité colossal. Ces 15 dernières années, cet indicateur a été la grande boussole pour déterminer la qualité des services clients. Alors que lui reproche-t-on désormais ? Tout simplement d'être un outil statistique ne permettant pas de prendre les causes profondes d'insatisfaction des clients. Étrange reproche tout de même. On ne demande pas à une boussole de donner la bonne direction, juste d'indiquer le nord. À chacun ensuite de tracer sa route. Le problème est sans doute bien plus profond. Cette remise en cause met en réalité en lumière la quasi-faillite des dispositifs d'amélioration continue qui ne parviennent plus à fonctionner dans des univers ultra complexes et qui doivent donc être repensés. 2. Mais à quoi vont servir les bureaux ? Question saugrenue avant la Covid. Le Covid, elle est désormais au cœur des interrogations. La pandémie nous a prouvé que l'on pouvait faire aussi bien et surtout différemment à distance. Le télétravail fiable, efficace et sécurisé en est la meilleure illustration. Combiné à des technologies innovantes, il permet de délivrer une expérience positive et mémorable. Les bureaux vont-ils disparaître pour autant ? La réponse est bien évidemment non. En revanche, leur fonction va évoluer. Ils vont devenir plus que jamais des lieux de preuve pour la promesse faite par l'entreprise à ses collaborateurs sur les valeurs, le collectif, la formation et sa bienveillance. Leur aménagement et leur rituel devront être revus. Le risque serait d'en faire des lieux artificiels, de passage sans âme. Au contraire, ils doivent être des espaces de vie sociale et de créativité partagée. 3. Comment les marques peuvent-elles garder le lien ? Cette question de l'AFRC est en fait le thème de sa dernière cérémonie des palmes de la relation client. Ce lien si cher aux marques et dans lequel elles investissent forcément pour recréer dans un moment où désormais réalisé à distance, chaque interaction est une occasion d'assurer la pleine satisfaction client. Ces derniers mois, les habitudes des consommateurs ont été profondément bouleversées. Le télétravail a entraîné des modifications de comportement. Comment préserver le lien avec le consommateur quand préserver le lien avec le consommateur était déjà une expérience avant le Covid-19, cette dernière a été encore renforcée. Et avec la distance qui s'installe, les marques vont devoir redoubler de créativité pour se faire remarquer. Cette situation entraîne encore plus de responsabilités pour les conseillers clientèle, gommant les différences entre équipes en présentiel et en distanciel. Les marques qui parviendront à garder ce lien seront celles qui proposeront une conversation continue à leurs clients sur tous les canaux et sous toutes les formes. 4. Sommes-nous condamnés à vivre dans une insécurité permanente ? C'est sans nul doute la question qui occupe le plus l'actualité, même si elle s'accompagne aussi de nombreux fantasmes. La bascule vers de nouveaux modes de travail a apporté son lot de nouvelles préoccupations autour de la protection des données, tandis que se renforçait la réglementation RGPD. Ce sujet porte en lui la question de la confiance que l'on peut accorder à une marque à qui l'on confie des informations personnelles. Va-t-elle les utiliser à bon escient et avec quelle déontologie ? Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et comprendre que la perception de leurs clients sur ce sujet aura à terme autant de valeur que la donnée elle-même. D'ailleurs, il est assez incroyable de constater à quelle vitesse les organisations se sont adaptées à ces nouvelles contraintes pour les intégrer comme un dispositif naturel. La situation actuelle nous amène à interroger beaucoup des dispositifs de la relation client que nous pensions être justes et immuables. L'agilité humaine et sa résilience ont permis de traverser cette période difficile. Les nouvelles technologies ont rendu possible ou accéléré ce qui était balbutiant, installant de nouveaux usages et modes de vie. La bonne combinaison consiste aujourd'hui à coupler l'excellence technologique et la rationalité opérationnelle pour apporter, dans la durée, des réponses pertinentes sur tous ces sujets et ouvrir de nouvelles voies. Transport maritime, Amazon affrète des cargos privés et fabrique ses propres conteneurs. À lire sur siècledigital.fr en date du 8 décembre. Le géant américain a dépensé plus de 61 milliards de dollars pour l'expédition en 2020. En développant ses propres systèmes de navigation, Amazon a trouvé un moyen de contourner le chaos de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis plusieurs années, Amazon a mis en place un stratagème pour contourner le chaos de la chaîne d'approvisionnement mondiale et améliorer ses performances dans le domaine du transport maritime. Selon CNBC, le géant américain affrète discrètement des cargos privés et des vols long courriers et fabrique même ses propres containers. L'idée est de pouvoir maîtriser parfaitement le parcours complexe d'une commande en ligne. Amazon contourne le chaos du transport maritime. Aujourd'hui, il y a 79 navires qui attendent pour entrer dans le port de Los Angeles. Certains d'entre eux peuvent même patienter jusqu'à 45 jours. Le transport maritime est mis à mal par le développement rapide du e-commerce. Pour pallier ce phénomène, Amazon a décidé de sortir les grands moyens. En affrétant ses propres cargos et en fabriquant ses conteneurs, l'entreprise de Jeff Bezos évite les longues périodes d'attente pour trouver des espaces disponibles sur les quais des ports les plus fréquentés du monde. Pour gagner du temps, Amazon est capable de faire entrer de la marchandise dans un obscur port de Washington, puis de la transporter par camion jusqu'à Los Angeles. Qui d'autre aurait l'idée de faire ça, explique Steve Ferreira, analyste du fret maritime. En effet, la plupart des transporteurs se disent qu'il suffit d'amener le bateau à Los Angeles, malgré les 2 ou 3 semaines d'attente. Amazon a donc réellement tiré parti de cette stratégie pour être compétitif sur le marché du transport maritime. Pour y parvenir, l'entreprise a dépensé sans compter. Le géant américain fabrique même ses propres containers. En effet, Amazon a dépensé donc plus de 61 milliards de dollars pour l'expédition en 2020, contre un peu moins de 38 milliards de dollars en 2019. Désormais, Amazon expédie 72% de ses propres colis, contre moins de 47% en 2019. En Chine, Amazon fabrique même ses propres containers, un élément indispensable au transport des marchandises, dont le prix augmente considérablement aujourd'hui. Cette stratégie n'a pas empêché le géant américain de subir une hausse de 14% des articles en rupture de stock et une augmentation moyenne des prix de 25% depuis janvier 2021. Les augmentations des coûts du transport se répercutent toujours sur le consommateur. Les containers d'Amazon ont un avantage énorme sur les autres. Une fois qu'ils arrivent sur le sol américain, ils peuvent être utilisés dans le système ferroviaire. Contrairement aux autres containers, ceux d'Amazon ne doivent pas repartir en Asie. Cette stratégie fait même de la société de Jeff Bezos l'un des plus grands transporteurs maritimes au monde. Depuis quelques mois, Walmart, Costco, Home Depot, Ikea et Target affrètent également leurs propres navires pour contourner les ports les plus fréquentés et décharger leurs marchandises plus rapidement. Ce que le luxe exploite de l'e-commerce, à lire sur lejournaldunet.com en date du 7 décembre. Près de 20% des ventes de produits de luxe se feront en ligne d'ici 2025. Selon McKinsey, la digitalisation du secteur est durablement engagée, très attachée à l'authenticité et aux relations personnelles avec les clients. Le secteur du luxe est réinventé en adoptant des innovations technologiques sans dénaturer le rapport si particulier à la marque. Dans cette période de reprise, plusieurs tendances éprouvées par les grandes enseignes se démarquent et feront le futur de l'e-commerce du luxe. Traitement VIP, même en ligne. Aucun autre acteur n'accorde plus d'importance à l'expérience dite du luxe. L'accueil privilégié, le conseil personnalisé, la cérémonie de présentation des produits, un traitement VIP avant, pendant et après la vente. La peur de voir ces interactions disparaître a éloigné le secteur du e-commerce. Mais faire son shopping de luxe en ligne ne signifie pas renoncer à cette expérience. Les marques rivalisent d'ingéniosité pour prolonger l'esprit de la boutique en ligne, que ce soit en produisant du contenu personnalisé, en se dévoilant sur les réseaux sociaux ou en offrant des avantages. Prada, Balenciaga ou Dior offrent la livraison gratuite sur toutes les commandes, ainsi que des emballages cadeaux personnalisés et gratuits, comme si la vente se concluait en magasin. Quant à Burberry ou Moncler, elles ont développé des applications natives axées sur les nouveaux produits, l'exclusivité et l'accès VIP à des événements privés. Commerce conversationnel, à l'image du vendeur constamment disponible en magasin, les outils de commerce conversationnel se sont multipliés en ligne. Les chatbox de luxe doivent pouvoir répondre à des questions aussi précises qu'inattendues. De quel tissu est fait une pièce? Quelles sont les mesures exactes d'un vêtement? Via WhatsApp, Facebook, Messenger ou une chatroom dédiée. Louis Vuitton et Prada ont configuré un chatbot programmé pour répondre à certaines questions relatives aux achats, à la livraison et au retour. Au-delà, un assistant commercial prend le relais avec des photos des produits en livrant des conseils. Burberry a conçu Lola, une assistante virtuelle sur application. Les boutiques françaises de Céline et Yves Saint-Laurent ont investi WeChat, la super application chinoise. Cette stratégie va plus loin que le site web et trouve son chemin sur les réseaux sociaux. Contenu achetable. Voir et acheter constitue l'un des éléments de l'approche multiplateforme. Il n'est plus nécessaire de se connecter au site web de l'enseigne pour découvrir les nouveaux produits et les acheter. Instagram devient une vitrine, la moindre publication est un contenu commercial. Les mini-sites WeChat sont des extensions des boutiques officielles. Même le blog ou le magazine en ligne de la marque, qui conserve sa fonction première de contenu éditorial, permet d'acheter les produits que les modèles portent en photo. En plus d'offrir un achat presque sans effort, ce type de contenu achetable renforce l'appartenance à la marque en prodiguant des conseils sur le style, en voyant des personnes que l'on suit porter ces mêmes pièces. Cette approche multiplateforme est un axe majeur de développement et particulièrement adapté au secteur du luxe. live shopping. Le live shopping doit être sérieusement envisagé par les marques de luxe, avec une expérience comparable à celle offerte dans un magasin. Louis Vuitton et Marc Jacobs exploitent déjà le marché chinois avec Bilibili, une plateforme sociale vidéo. D'ici 2026, McKinsey prédit qu'il pourrait représenter de 10 à 20% de l'e-commerce mondial. Le live shopping repose surtout sur sa capacité à présenter au client le premier véritable catalogue dynamique permettant d'avoir un aperçu réaliste du produit, d'apprécier la qualité, la coupe, l'appartenance générale depuis son canapé. Transposer la boutique physique au virtuel, voyager à travers les cybermodes. Pour son défilé automne-hiver 2021, Balenciaga a distribué des équipements Oculus VR à 30 membres de la presse pour assister à un défilé 100% 3D avec mannequins et vêtements virtuels. Louis Vuitton a également créé des articles de mode pour les personnages du jeu vidéo League of Legends que les joueurs pouvaient acheter avec de l'argent bien réel. Face aux restrictions sanitaires, aux questions posées autour de la durabilité dans le monde, les environnements virtuels vont très certainement se multiplier, laissant libre cours à l'imagination des créateurs et à l'évasion des clients. Essayage virtuel. Plus conventionnel, mais tout aussi irréel, l'essayage virtuel est lui aussi en plein boom. Il est vrai qu'il solutionne un atout majeur jusque-là réservé à l'achat en boutique. Voir si un vêtement convient à sa morphologie, à son teint de peau, est désormais possible grâce aux filtres Instagram et Snapchat qui unissent l'expérience sociale et l'achat. La plateforme de luxe Farfetch est associée à Snap pour créer un filtre avec la marque à sensation Off-White. Ils ont également utilisé un logiciel de reconnaissance vocale qui permet aux utilisateurs de changer de tenue en parlant, sans oublier le bouton « Acheter maintenant » intelligemment intégré à l'interface. Unifié pour mieux régner. Malgré les investissements significatifs afin d'optimiser la vente en ligne, le commerce du luxe et ses clients ne sauraient se passer de l'expérience en magasin. Les deux canaux sont complémentaires et leur unification est primordiale pour offrir une expérience homogène et maîtriser l'identification et la connaissance client. Ainsi, les stratégies omnicanales se déploient à l'image par exemple des politiques d'échange gratuite en magasin après un achat en ligne pour la quasi-totalité des grandes marques de luxe. Les services proposés en boutique sont adaptés au web, où il est possible de connaître les collections disponibles selon le magasin, prendre rendez-vous avec un tailleur, etc. À Londres, Tiffany & Co. mise davantage sur le magasin conceptuel et connecté, avec plusieurs écrans et la possibilité de concevoir ses propres bijoux sur une tablette. Ce magasin utilise la technologie numérique pour augmenter l'expérience sur place. La seconde main, dans le luxe aussi. Les ventes de seconde main ne riment pas toujours avec mauvaise qualité. Cartier a même su capitaliser sur le concept du vintage pour caractériser l'horlogerie de luxe, la rareté, l'histoire des pièces, qui ont fait l'âge d'or de la maison et surtout l'authenticité dans un secteur très exposé à la contrefaçon. L'approche astucieuse est aussi visionnaire. Le marché mondial du luxe de seconde main et à lui seul est estimé à plus de 21 milliards de dollars en 2020, avec une croissance annuelle de 8% selon le BCG. Les marques de luxe ont toutes engagé ces transformations à des stades plus ou moins avancés, dans un univers où tout est question de détails, les innombrables possibilités offertes par la technologie doivent être savamment réfléchies et parfaitement exécutées. Les données des consommateurs, nouvelle mine d'or de la grande distribution depuis l'avènement de l'e-commerce, à lire sur franchweb.fr en date du 6 décembre. Au passage en caisse ou sur les applications de course, la grande distribution collecte des données sur ses clients qui constituent désormais une précieuse source de revenus. Le phénomène n'est pas nouveau. Les distributeurs ont toujours examiné les tickets de caisse pour adapter leur offre. Lorsqu'un client souscrit à une carte de fidélité, ils peuvent en plus relier ses achats à son nom, son âge ou encore son adresse. Mais depuis l'avènement de l'e-commerce et des outils de traitement de la donnée, votre supermarché ne sait plus seulement quelle marque de lait vous achetez et dans quel magasin, mais aussi combien de temps vous avez passé à hésiter sur les chips et si vous avez été exposé à une publicité avant de choisir vos yaourts bio. Il suffit d'avoir coché quelques cases lors de votre inscription et d'avoir accepté les cookies, petits traceurs informatiques présents sur tous les sites. Les distributeurs disposent ainsi d'énormes bases de données, de millions de profils clients et de milliards de transactions. Ils ont un volume et une diversité d'informations plus importants que d'autres très gros acteurs, comme Amazon par exemple, indique à l'AFP, Olivier Salomon, spécialiste de la distribution chez Alix Partners. Ces données sont utilisées pour s'adapter aux tendances de marché, mais aussi et surtout pour présenter à chaque client des offres et des promotions personnalisées. Sur le site en ligne du supermarché, que vous avez l'habitude de fréquenter, les produits achetés fréquemment sont automatiquement mis en avant et il est possible de bénéficier d'une réduction sur ces produits que les autres consommateurs ne verront pas. Cela nous permet d'avoir des clients beaucoup plus fidèles, assure Elodie Pertuiseau, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale chez Carrefour. Un outil stratégique, ce service intéresse aussi les marques. Les distributeurs ont donc créé des régies publicitaires qui leur vendent des mots-clés et des espaces sur leur site d'e-commerce pour mettre en avant certains produits de manière personnalisée. C'est ce qu'on appelle le retail média. En faisant une recherche de papier toilette, par exemple, on trouvera sa marque préférée mise en avant, mais aussi des recommandations d'autres marques similaires en bonne place qui ont payé pour y être. Comme la publicité est directement sur le site d'achat, la carte bleue n'est jamais loin. Tout l'enjeu est de faire en sorte que le produit soit bien adapté à la recherche, indique Cyril Bourgois, directeur de la transformation digitale de Casino et directeur général de Revelancy, la filiale Retail Data du groupe. La régie publicitaire peut aussi organiser des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux et en mesurer directement l'impact en magasin. Notre objectif est de pouvoir orienter les budgets marketing des marques qui sont traditionnellement plutôt utilisés pour des campagnes à la télévision ou auprès de géants de la publicité en ligne comme Google, Amazon ou Facebook, indique Elodie Pertuiseau. Au premier semestre 2021, le retail média a généré près de 300 millions d'euros de recettes en France, plus 41% par rapport à l'an dernier. Les distributeurs tentent désormais de s'imposer sur ce secteur en s'alliant avec d'autres sociétés ou en éditant leur propre logiciel comme Casino avec sa société Revelancy. C'est un outil stratégique pour le groupe et une activité à part entière, souligne Cyril Bourgois. Revelancy, qui a réalisé 55 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, vend désormais ses solutions à d'autres distributeurs sous marque blanche. Une difficulté demeure pour ces entreprises, selon Olivier Salomon, mesurer jusqu'où la personnalisation doit aller sans paraître intrusive pour le client. Tout insiste en tout cas sur le respect du règlement général de protection des données personnelles, RGPD. Les consommateurs peuvent demander à tout moment à consulter les données recueillies et revenir sur leur consentement à les partager. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Alors, contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.